Histoire de la Réformation en Europe au temps de Calvin, livre 5, chapitre 4, les batailles de Grandson, 1531-1532. La maladie des petites questions, sagesse de Farel, comment il appelle des ouvriers, cri de guerre des réformateurs, Farel marche au combat, la bataille de Grandson en 1476, Farel est conduit par les cordeliers, lutte dans le couvent des bénédictins, les églises ouvertes aux réformateurs, les réformateurs en prison, insultes et prédications d'un moine, une nouvelle lutte se prépare, les deux moines en sentinelle, conjuration des dévotes et conversion des moines, les fêtes de Noël à Orbe, désordre des catholiques, concile des réformés, premier acte de liberté religieuse. L'échec qu'il avait reçu dans Orbe ne diminuait pas le zèle de Farel. Il voyait devant lui d'autres localités qui devaient être évangélisées. S'il se refusait aux demandes ambitieuses de nouveaux convertis qui, tels que Hollard, s'estimaient plus capables qu'ils ne l'étaient réellement et demandaient indiscrètement la consécration au saint ministère, il ne cherchait qu'avec plus de zèle des serviteurs de Dieu, doués d'un esprit de force, de charité et de prudence. Quelques hommes lui semblaient avoir été mûris en France par la persécution. Il appelait en Suisse Toussaint, le comte Saint-Fouranus, Andronique et d'autres encore. À peine ses frères arrivaient-ils qu'il les envoyait à l'œuvre, et souvent, après de ferventes prières, il lui semblait voir toute la vaste vallée renfermée entre le Jura et les Alpes, remplie des eaux vives de l'Évangile. « Certes, disait-il, si nous regardons aux temps qui ont précédé, l'œuvre de Christ est belle à cette heure, et pourtant, que de racines à arracher encore avant que le champ soit prêt à recevoir la semence divine, que de travaux à accomplir, que de sueurs à endurer, que d'ennemis à vaincre. Nous avons besoin de laboureurs endurcis au travail. Je ne peux pas leur promettre des monts d'or, mais je sais que le Père n'abandonnera jamais les siens et qu'il leur donnera une abondante moisson. » Aux plus belles espérances succédaient souvent dans l'âme de Farel d'accablantes tristesses. Une douleur surtout l'affectait. La maladie des petites questions semblait menacer d'envahir l'Église nouvelle. En tout temps, les esprits étroits et non équilibrés s'attachent à certains détails dans la doctrine du baptême, de la scène, du ministère et d'autres encore. Ils se passionnent pour l'aneth et le cumin et entravent par leur minutie le règne de Jésus-Christ. Farel, qui a une saine doctrine, a une infatigable activité, joignait un sage discernement et un esprit large et libéral, tremblait que ce travers des petites intelligences ne se fût glissé dans l'esprit des ministres auxquels il adressait vocation. Il se trouvait alors à Strasbourg un homme chrétien nommé Andronique que le réformateur désirait attirer en Suisse. Mais Farel se demandait s'il n'était pas atteint de formalisme ou de fanatisme, ces deux mots qui se rencontraient quelquefois sur les bords du Rhin. Il résolut de lui parler avec franchise, et sa lettre nous apprend ce qu'était pour lui le ministère. « Mon frère, écrivit-il à Andronique, possédez-vous Christ de manière à l'enseigner purement, sans les vaines controverses de l'eau et du pain, du sens et des dîmes, qui aux yeux de plusieurs constituent le christianisme ?» Vous contentez-vous de demander que tous, renonçant à l'impiété et à l'injustice, s'arment de la foi et serrent dans leur cœur le trésor céleste, Christ qui est assis à la droite du Père. Êtes-vous prêt à donner à toutes les puissances ce qui leur est dû, les sens, les dîmes, à les payer non seulement aux impies mais encore aux frères? Ne cherchez-vous que la gloire de Christ? Ne vous proposez-vous que de planter dans les cœurs la foi qui opère par la charité? Êtes-vous décidé à vous charger de la croix? Car, sachez-le bien, la croix est à la porte, elle vous attend. Si vous êtes prêt à la porter, alors, ô mon frère, venez, partez. » Telles étaient les sages paroles du plus ardent des réformateurs. En même temps qu'il appelait ainsi à haute voix de nouveaux ouvriers, Farel éloignait les paresseux et les lâches, promettant à tous des fatigues, des injures, des persécutions. C'était avec de telles promesses que le réformateur enrôlait ses soldats. « Ne vous attendez pas à l'oisiveté, mais au travail, disait-il. Vous ne trouverez le repos qu'après la fatigue et vous ne moissonnerez que quand vous aurez semé à vos propres dépens. Une grande porte est ouverte, mais nul n'y entre, si ce n'est ceux qui veulent paître les brebis et non les manger, et qui sont décidés à répondre par des bienfaits aux injures dont on les assaille. Les labeurs vous attendent, les sueurs vous attendent. Je ne puis vous promettre que de la peine. Si vous voulez venir avec nous, sachez que vous entrez dans une dure milice. Vous aurez à combattre, non contre des adversaires lâches et abattus, mais contre des ennemis pleins de décision et de force. Soyez donc un noble et courageux soldat, attaquez l'adversaire joyeusement, et jetez-vous au plus chaud du combat en mettant votre confiance en Dieu à qui seul appartiennent et la bataille et la victoire. Ce n'est pas nous qui combattons, c'est le Seigneur. » Mais en vain Farel appelait-il au combat. Les recrues, craintives, ne joignaient pas l'armée. Il lui venait bien quelques petits secours, mais qu'était-ce pour un si grand travail? Alors ses cris redoublaient. En présence des Alpes gigantesques, cet homme si humble s'élevait comme elle, sa parole grandissait et ressemblait plus au cri d'un soldat qui lutte au milieu des cohortes ennemies qu'au son doux et subtil de l'évangile de paix. « Nous sommes au fort du combat, disait-il. La mêlée est terrible, on s'attaque corps à corps, mais le Seigneur donne la victoire à ceux qui lui appartiennent. Saisissez l'épée, posez le casque sur votre tête, revêtez la cuirasse, suspendez à votre bras le bouclier, saignez vos reins, et vous étant ainsi armés de toute l'armure de Dieu, précipitez-vous au milieu de la bataille, lancez les javelots, renversez de côté et d'autre les ennemis et mettez toute l'armée en fuite. Mais hélas, au lieu de vous mêler aux soldats de Jésus-Christ, au lieu de vous précipiter vers les batailles du Seigneur, vous craignez la croix, les dangers qui vous attendent, et préférant vous occuper de votre repos, vous refusez de venir au secours de vos frères. Est-ce là la conduite d'un chrétien ? Les saintes Écritures nous déclarent que le Seigneur tirera de cette lâcheté une sévère vengeance. Prenez garde d'enfouir le talent que vous avez reçu. Rappelez-vous que vous devez rendre compte de toutes ces âmes que la tyrannie retienne captives dans un cachot ténébreux. Vous pourriez mettre la lumière devant leurs yeux, vous pouvez les délivrer de leurs chaînes, vous devez les conjurer de se jeter dans les bras de Jésus-Christ, n'hésitez pas, tout doit passer après Jésus-Christ. Ne vous inquiétez pas de ce que votre femme veut et demande, mais de ce que Dieu exige et commande. » Jamais sollicitations plus puissantes furent-elles adressées. Il y avait alors un nouveau pôle dans le monde. Enfin, les instances de Farel prévalurent sur plusieurs. Andronic et d'autres accoururent et travaillèrent avec lui dans les pays qui s'étendent de Bâle et de Berne jusqu'à Genève. Ravi d'avoir trouvé de telles aides, le réformateur courut à de nouveaux combats. Chaque paroisse, chaque village, chaque ville devait être conquis à Christ par une lutte opiniâtre. Il n'y a pas de soldat qui ait livré plus de batailles. On ne saurait trouver le pendant de Farel que dans le converti de Damas. Il prit avec lui de Glotinis, ministre de Tavannes, dans le Jura bernois, qui était venu à son aide. Il quitta Orbe et, laissant sur la gauche la gorge pittoresque du Jura, où se trouve caché le bourg de Sainte-Croix et que dominent les cimes élevées du Chasseron, il se dirigea vers Grandson. Bientôt, il salua de loin les murs crénelés de l'antique château qui s'élève près de l'extrémité du lac de Neuchâtel. Ces lieux, qui allaient devenir un champ de bataille évangélique, avaient vu d'autres combats. C'était là qu'en 1476, les Suisses s'étaient élancés des hauteurs de Champagne et de Bonvillard, tandis que le mugissement terrible du taureau d'Uri annonçait la mort et que la vache d'Unterwalde faisait entendre un retentissement étrange. C'était là qu'ils s'étaient mis à genoux en face des phalanges ennemies, puis se relevant aux cris de grands sons, faisant retentir leur musique effrayante, déployant leurs antiques bannières et les entourant de leurs piques longues et redoutables, ils avaient chargé les bourguignons avec l'impétuosité de la tempête. En vain le général de la cavalerie, sire Louis de Châteauguyon, frère du prince d'Orange et du seigneur d'Orbe et de Grandson, piquant son grand cheval de bataille, avait-il fait une charge impétueuse à la tête de 6000 chevaux. En vain avait-il déjà saisi la bannière de Schwitz, Inder Gruob de Berne lui avait donné le coup de la mort et en voyant tomber ce guerrier de haute stature, les bourguignons avaient été saisis d'épouvante. Granson, comme Orbe, était perdu pour les familles de ce héros. La souveraineté de ces villes allait passer au canton de Berne et de Fribourg. En effet, l'effroi était partout répandu dans les rangs, et Charles le Téméraire devait s'enfuir en laissant derrière lui 400 tentes de soie brodées d'or et de perles, 600 étendards et une immense quantité de vaisselle, d'argent, de pierreries et de joyaux. Cette vigoureuse attaque et ce glorieux triomphe dont le bruit retentissait alors en ces paisibles contrées était une image de l'œuvre que Farel devait y accomplir. Berne allait par lui frapper dans Granson comme dans Orbe un ennemi plus redoutable que le sire de Château-Guyon. À l'entrée de la ville, sur le rivage du lac, s'élevait le vaste couvent des Cordeliers. Farel et son ami de Glotinis, qui l'accompagnaient étant arrivés, s'arrêtèrent devant ces murailles et se dirent l'un à l'autre que c'était là sans doute que le Seigneur adressait d'abord leurs pas. Ils sonnèrent, entrèrent au parloir, et le gardien du monastère, le frère Guy Régis, leur ayant demandé ce qu'il voulait, ils le prièrent naïvement au nom des seigneurs de Berne de leur accorder l'usage de l'Église. Mais Guy Régis, homme résolu et prêtre fervent, qui savait tout ce qui s'était passé à Orbe, s'indigna d'une telle insolence. « Hérétique !» dit-il à Farel. « Fils de juif !» lui cria un autre moine. Cet accueil n'était pas encourageant. Les deux ministres discutèrent avec quelques amis de la parole de Dieu sur ce qu'il y avait à faire. « Allez au prieuré d'en haut, » dirent ces derniers, « puisque vous avez une lettre de messeigneurs de Berne pour le prieur. Les moines n'oseront pas vous y conduire. » Farel, Glotinis et quelques frères s'acheminèrent donc vers le couvent des Bénédictins. Ils heurtent, on ouvre. Plusieurs moines se présentent. Ils savaient déjà quelque chose de l'arrivée des missionnaires. Ils les considèrent des pieds à la tête, et à peine Farel a-t-il demandé la liberté de prêcher qu'une immense rumeur éclate dans le couvent. Le sacristain cache un pistolet sur sa robe, un autre moine s'arme d'un couteau, et tous deux s'avancent furtivement pour s'emparer de l'hérétique qui, selon eux, trouble toutes les églises. Le sacristain arrive le premier. D'une main, il pose son pistolet sur Farel, de l'autre, il le saisit et, l'attirant à lui, s'efforce de l'entraîner dans le cloître où la prison l'attendait. Glotinis s'en aperçoit. Il s'élance pour délivrer son ami, mais l'autre moine, arrivé sur le lieu de la lutte, se jette sur lui en faisant briller son couteau. Au bruit qui se fait dans l'intérieur du cloître, les amis des évangélistes qui étaient restés à la porte et attendaient de savoir s'ils pouvaient ou non entendre Farel accourent et l'arrachent ainsi que son collègue aux bras vigoureux des moines. Aussitôt, les portes du monastère se referment et même la peur qu'en avaient des réformateurs était telle qu'elles restèrent fermées en dedans 15 jours. Farel, voyant que pour le moment il n'y avait rien à faire à Granson, partit pour Morat et invita Glotinis, qu'il laissa derrière lui, à profiter de toutes les occasions pour annoncer l'Évangile. Les moines, retranchés derrière leurs murailles, tremblaient, délibéraient, étaient aux aguets et s'armaient contre ce seul homme comme s'ils eussent eu devant eux une armée. Portes des couvents, portes des églises, tout était hermétiquement fermé. Glotinis, voyant qu'il ne pouvait prêcher dans les temples, résolut de prêcher dans les rues et les maisons. Mais à peine eut-il commencé que les moines, avertis par les signes des agents auxquels ils avaient ordonné de ne pas perdre de vue l'évangéliste, firent une vigoureuse sortie. Le valeureux gardien des Cordeliers, Guy Régis, le chantre et tous les religieux arrivèrent au lieu où parlait Glotinis. Ils se placèrent hardiment entre l'évangéliste et les auditeurs. « Viens, lui dit le gardien, viens si tu l'oses, devant le roi ou l'empereur, viens à Besançon, à Dole ou à Paris. « Je montrerai à toi et à tout le monde que tu ne prêches que diablerie. Va, nous avons assez de toi, tu n'entreras pas. » À peine cette oraison était-elle finie, que tous les moines entonnèrent la péroraison. « Hérétique, fils de juif, apostat !» Puis la bande, ayant ainsi lâché sa bordée, se retira promptement derrière ses murs. Des députés bernois qui étaient à Neuchâtel apprenant ce qui se passait à Granson n'hésitèrent pas à s'y rendre. Ils ne voulaient pas forcer les gens à se convertir, mais ils désiraient que tous leurs administrés entendissent sans obstacle l'Évangile et eussent ainsi la liberté de se décider avec connaissance de cause pour Rome ou pour la Réformation. Les seigneurs bernois arrivés à Granson, qui n'est pas loin de Neuchâtel, firent ouvrir aux réformateurs les églises des couvents. Un express fut envoyé à Farel qui revint aussitôt, amenant Viré avec lui, et dès le 12 mai, les trois évangélistes se mirent à prêcher jour et dimanche. Les moines, étonnés, irrités, et pourtant contenus par la crainte de leur redouté seigneur, regardaient d'un œil morne la foule qui venait entendre l'hérésie. Le gardien des cordeliers, qui avait une grande réputation de science, se crut appelé à résister aux réformateurs. À peine était-il descendu de chair qu'il y montait, et ainsi Farel et Guy Régis s'attaquaient, se réfutaient, luttant pour ainsi dire corps à corps. L'évangéliste annonçait la grâce, le moine prescrivait les œuvres. Le premier reprochait à son adversaire de désobéir à l'Écriture, le second reprochait au sien de désobéir à l'Église. Les moines allèrent plus loin. Ils conjurèrent les magistrats de prendre la défense de leur foi. Ceux-ci mirent les ministres au banc et les huissiers les saisirent. La populace, les voyant aux mains des sergents, les suivit et les couvrit d'insultes. Ils furent mis en prison. Alors la lutte descendit dans le peuple et n'en devint que plus chaude. Les partis se formaient, les bandes s'organisaient. Les catholiques, voulant se distinguer, mirent des pives, c'est-à-dire des pommes de pin, à leur bonnet et marchèrent ainsi fièrement dans les rues. Leurs adversaires, les voyant passer, leur disaient « Vous méprisez messieurs de Berne !» Mais ils répondaient avec arrogance « Nul ne nous en empêchera !» Les habitants d'Yverdon, ville fort rapprochée qui épousait vivement la cause défendue par Guy Régis, organisèrent non un corps de soldats mais une procession. Elle sort de la ville, côtoie le lac, au lieu de drapeaux flottent les bannières cléricales, au lieu de trompettes et de tambours retentissent des litanies. Enfin, ce singulier renfort arrive dans la ville où se livraient de si rudes combats. Les esprits s'échauffent, les passions s'enflamment. Farel et ses amis ayant été mis en liberté, un moine noir nommé Claude de Bonnetto s'attache au réformateur et l'accable d'insultes. Celui-ci ne se déconcerta pas. « Chrétien, disait-il, retirez-vous du pape qui a mis sur votre dos des charges insupportables auxquelles il ne touche pas du bout de son doigt. Venez à celui qui a pris tout votre fardeau et l'a placé sur ses épaules. Ne vous assurez point aux prêtres et à Rome. Ayez fiance en Jésus-Christ. » Le conseil de Berne prit la défense de son évangéliste et condamna le moine Bonnetto. Le secours d'Yverdon n'ayant pas eu d'effet, un autre fut envoyé de Lausanne. Le 24 juin, jour de Saint-Jean-Baptiste, un cordelier arriva à Grandson pour prêcher à l'honneur du saint. Le temple des franciscains fut bientôt comble et au milieu de la foule se trouvaient Farel et Glotinis. Les choses étranges que disait le prédicateur les remplissaient de tristesse. Bientôt, le réformateur se lève et, c'était la coutume du temps, se met à réfuter tout haut le moine. Celui-ci s'arrête et les regards de l'assemblée se tournent vers le ministre avec des signes de colère. Le bailli Jean Reif de Fribourg, bon catholique, incapable de se contenir, lève le poing et frappe Farel. Ce fut le signal du combat. Justicier, cordelier, bourgeois de Grandson, bourgeois d'Yverdon, venu en armes à la fête, se précipite sur les deux ministres, les renverse et les accable de coups de poing et de coups de pied. Leurs amis accourent et se jettent dans la mêlée, et après une lutte opiniâtre, ils parviennent à arracher les réformateurs aux mains de la foule ameutée, mais non sans qu'ils fussent merveilleusement accoutrés, c'est-à-dire maltraités, tant par le visage que autre part. Le grand banneret d'Orbe le vit et c'est lui qui le rapporte. Les évangéliques ne perdirent pas de temps. L'un d'eux partit aussitôt pour se rendre vers le sieur de Watteville, à Voyer de Berne, qui se trouvait dans ses terres de Colombier, à 3 lieues de Grandson. Ce magistrat arriva et, voulant mettre les habitants en état d'exercer leur libre examen selon les principes de Berne, il ordonna que le cordelier et Farel prêcheraient tour à tour. Puis il se rendit à l'église avec son valet dans le but d'entendre les prédicateurs. Mais il était question de tout autre chose. Le peuple était encore fort agité de l'émotion de la veille. On prétendait que les réformés voulaient abattre le grand crucifix, tant respecté de toute la ville. Deux moines, Tissot et Gondoz, se distinguaient par leur zèle pour la doctrine du pape. Hommes sincères mais fanatiques, ils auraient cru en assassinant Farel rendre service à Dieu. Ils avaient été mis de piquet pour défendre l'image qu'on croyait menacée. Munis de haches cachées sous leurs robes, ils se promenaient l'œil au guet, sans mot dire, au pied de l'escalier qui conduisait à la galerie où se trouvait le fameux crucifix. Au moment où parut le seigneur de Berne, l'une des deux sentinelles, voyant une figure étrangère qui lui avait l'air hérétique, l'arrêta brusquement. « Retirez-vous, s'il n'entrerait pas, lui dit-il, et son collègue poussa rudement le sieur de Watteville. « Tout beau, dit gravement la voyée, il ne faut pas tant s'échauffer. » Le valet du patricien, irrité de ce qu'on manquait de respect à son maître et moins calme que lui, saisit à bras-le-corps le guet à capuchon et, sentant une hache sous sa robe, la prit et allait l'en frapper quand le seigneur Bernois le retint. Tous les moines, effrayés, s'enfuirent, et de Watteville restait maître de la place, y mit en sentinelle son valet, qui se promenant en long et en large, l'hache sur l'épaule, faisait la garde à la place des moines. Il eut bientôt quelque chose à faire. Il n'y avait que quelques minutes qu'il était là, quand une trentaine de femmes, l'œil méchant, la démarche sournoise, tenant d'une main leur tablier de serge replié contre elles, se présentèrent et cherchèrent à pénétrer dans la galerie. Elles avaient rempli leurs tabliers les unes de terre dans leur jardin, les autres de cendres dans leur cuisine. C'était avec ces armes qu'elles marchaient au combat. Leur plan n'était pas, il est vrai, de livrer une bataille en règle, mais de se mettre en embuscade sur la galerie près de la chaire, puis au moment où Farel y paraîtrait, de lui jeter des cendres dans les yeux, de la boue dans la bouche, et de réduire ainsi au silence l'intrépide prédicateur. C'était leur genre de controverse. La troupe s'approchait. Le valet de la voyée, ferme comme un serviteur de messeigneur de Berne, se promenait toujours la hache en main. Il aperçut le bataillon féminin, comprit aussitôt de quoi il s'agissait, et s'avança en brandissant l'arme qu'il avait enlevée aux moines. Les dévotes de Grandson, voyant un Bernois au lieu d'un cordelier, s'effraient, poussent un cri, lâchent leur tablier, laissent tomber leur sable et leurs cendres sur les dalles de l'église et s'enfuient dans leur maison. Les conjurations des moines et des femmes ayant été ainsi déjouées, le magistrat Bernois n'en profita point pour faire parler Farel seul. Il voulait balance égale. Le cordelier et le réformateur prêchèrent donc tour à tour tranquillement. Tissot et Gondoz, qui avaient arrêté de Watteville, furent mis pour 15 jours en prison. Ces moines, revenus de leur fureur, faisaient des réflexions. Ils se demandaient ce qu'était donc cette doctrine luthérienne qui avait de si fermes adhérents. Les réformateurs les visitèrent, leur montrèrent beaucoup d'affection. Les moines furent touchés. Ils reconnurent que l'hérésie dont ils avaient peur était tout simplement l'évangile miséricordieux de Jésus-Christ. Ils sortirent avec quelques pensées nouvelles, et 2 ans après, dit le Banneret, ils prirent la loi luthérienne, furent faits prédicants. L'un de Fontaine, l'autre de Chavornay, se marièrent et eurent grande génération d'enfants. Au jour de la Réformation, comme au temps des apôtres, on vit souvent ceux qui se ruaient furieusement contre Dieu obtenir miséricorde et devenir des héros de la foi. Un dernier tumulte devait faire proclamer en Suisse les principes de la liberté religieuse. Ce fut à Orbe qu'il eut lieu et pendant les fêtes de Noël. Les catholiques, fiers de leur dévotion nocturne usitée dans cette saison de l'année, insultaient les réformés. « Allez-vous coucher, leur disaient-ils, tandis que nous, nous allons à l'église chanter les louanges de Dieu. Vous, allez dormir dans vos lits comme des pourceaux. » Les réformateurs, qui ne voulaient pas de messe de minuit avec leur profanation, désiraient profiter des heures du soir où la cessation du travail permet de réunir une grande assemblée. La veille de Noël, à 7 heures, ils demandèrent au gouvernement les clés de l'église. « Ce n'est pas l'heure de prêche, leur répondit-il. Vous ne les aurez point. » Ils répliquèrent que toute heure, sauf la nuit, était une heure de prêche. Et décidés à inaugurer les services du soir, ils se rendirent au temple, en ouvrirent les portes. Le ministre monta en chaire et en un moment, toute l'église fut comble. Quelques prêtres ou dévots, mettant le nez dans le temple, s'écriaient, étonnés de la foule, « Le diable, il y en a bien tant mis !» Le ministre, s'était peut-être viré, exposa le grand mystère de la foi, la venue du Sauveur, et demanda à ses auditeurs s'ils ne voulaient pas le recevoir dans leur cœur. Le prêche avait duré longtemps, l'horloge frappa 9 heures. Aussitôt, les cloches sonnent, et les catholiques entrent en foule dans l'église, quoiqu'il ne dût pas y avoir de service à cette heure-là. Les réformés, ne voulant pas engager de lutte, se retirèrent paisiblement chez eux. Mais un mauvais drôle, qui s'était glissé dans l'assemblée avec le dessein de soulever le peuple, se mit à dire méchamment à droite et à gauche, ce qui n'était pas, que les hérétiques allaient à Sainte-Claire pour tout briser. On le croit, la foule abandonne les autels, et rencontrant encore quelques réformés dans les rues, Il jette bas les uns, il fend de la tête à d'autres, et les plus connus s'étant déjà retirés, la populace catholique se rassemble devant leur maison et enfonce leurs fenêtres à coups de pierre. Viré partit pour Berne avec 10 réformés afin de porter sa plainte. Quelques jours après, le 9 janvier 1532, 230 ministres réunis à Berne, parmi lesquels se trouvait le sage Capiton, y formaient une espèce de concile. Sortis la plupart de l'Église romaine, ils voulaient la liberté non seulement pour eux, mais aussi pour leurs adversaires. Les seigneurs laïcs pensaient de même. Berne, représentant du protestantisme, s'entendit sur ce sujet avec Fribourg, le champion de la papauté. « Nous voulons, dire les Bernois, que chacun ait son libre arbitre d'aller au prêche ou à la messe. Nous de même, dirent les fribourgeois, nous voulons que tous vivent ensemble en paix, que ni les prédicants ni les prêtres n'appellent leurs adversaires des hérétiques ou des meurtriers. Nous de même, dirent les fribourgeois. Toutefois, nous ne voulons pas empêcher que les prédicants et les prêtres confèrent aimablement et fraternellement sur la foi. Très juste, dirent les fribourgeois. Ces articles et d'autres semblables, premier monument de la liberté religieuse en Suisse, furent publiés le 30 janvier 1532. Il est à regretter que cette ordonnance du XVIe siècle n'ait pas été dès lors prise pour modèle dans tous les pays de la chrétienté et en Suisse même où elle était faite. Cet ordre n'y prévint pas longtemps de violentes collisions. Nous laisserons maintenant ces contrées et nous suivrons ailleurs le grand champion de la parole de Dieu, Farel. Mais nous y reviendrons plus tard. Les semences évangéliques devaient être répandues dans le pays de Vaud avec plus d'abondance encore, et cette terre qui semblait ingrate au premier abord devait produire, et a produit surtout de nos jours, les plus beaux fruits.